Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour ta fidélité. C'est vrai, nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons aussi, Seigneur, le manifester en écoutant ta parole, en recevant ta parole, mais surtout en la mettant en pratique aussi, Seigneur. Nous prions pour que tu ouvres nos oreilles, Seigneur, nos cœurs, afin de recevoir ta parole comme des enfants, Seigneur. Seigneur, nous venons briser, Seigneur, tout esprit de raisonnement, tout orgueil qui nous empêcherait, Seigneur, de recevoir ta parole, Seigneur, clairement. Merci d'agir, Seigneur, et de te manifester au milieu de nous. Viens nous parler, Seigneur, par ton esprit, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Nombres, au chapitre 30. Nombres, au chapitre 30, verset 1er au verset 2. Nombres 30, 1 à 2. Moïse dit aux enfants d'Israël tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d'Israël et dit, voici ce que l'Éternel ordonne. Verset 3 aussi. Lorsqu'un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Voilà ce que le Seigneur dit. Le Seigneur parle à Moïse. Il dit, lorsque un homme aura fait un vœu à l'Éternel, il devra comprendre qu'il est lié par un engagement et il devra faire ce qu'il a dit. Tout ce qui est sorti de sa bouche, eh bien, il devra le mettre en exécution. Nous voyons lorsque, à l'occasion des... Par exemple, du nouvel an, les gens font des résolutions. Il y en a qui font des vœux en disant, bon, cette année, pour celui qui fumait, eh ben, je vais arrêter de fumer parce qu'il comprend la nocivité de la cigarette. Il y a des gens qui se disent, bon, cette année, je veux me mettre à faire du sport pour m'entretenir un petit peu. Il y en a qui, par rapport aux études, par rapport à toutes choses, ils font des projets. Mais souvent, le journaliste pose la question ensuite à ces personnes en disant « Mais l'année dernière, est-ce que vous avez tenu vos paroles ?» Eh bien, beaucoup disent finalement qu'ils n'ont pas tenu parole. Donc, sur le moment, les gens ont pris des engagements, peut-être liés par l'émotion, peut-être influencés par, pour certains, l'alcool, pour l'euphorie qu'il y a autour, par les résolutions que les autres autour d'eux prennent. Eh bien, ils prennent aussi des résolutions, mais en réalité sans substance, sans véritablement calculer à la dépense en quelque sorte, sans comprendre les efforts qu'il y a aussi pour arriver à accomplir ces vœux-là. Et bien souvent, eh ben, ils finissent par abandonner. Ils se disent, bon, j'avais pris tel engagement, mais finalement, c'est trop dur. Parfois par la négligence ou simplement par un esprit de paresse, tout simplement. Et là, le Seigneur nous dit, lorsqu'un homme aura fait un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, il ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. Le thème de notre exhortation aujourd'hui, c'est honore ton vœu vis-à-vis de l'Éternel. Honorons le vœu que nous avons fait à Dieu. Un vœu, c'est quoi? Un vœu, c'est une résolution qu'on prend. On dit, on a vécu peut-être un événement, ou même pas d'événement, mais on a été touché par la parole de Dieu, on a été touché par quelque chose que Dieu a fait. Eh bien, on décide, on dit, Seigneur, je m'engage à faire ceci pour toi. Seigneur, je m'engage à te servir. Seigneur, je m'engage à sortir de la paresse. Seigneur, je m'engage à sortir du journalisme, du fait d'être spectateur. Je m'engage à te suivre. C'est ça faire un vœu. Un vœu, c'est un geste de reconnaissance pour une faveur qu'on nous a faite. Et c'est ce que nous allons voir plus tard. Et un vœu, c'est une promesse aussi qu'on fait à quelqu'un. Et maintenant, comme on a dit, le vœu, comme nous avons lu aussi, le Seigneur dit que le vœu est un engagement. Nous lisons aussi dans Deutéronome, qui nous explique aussi, Deutéronome chapitre 23, à partir du verset 21. Deutéronome 23, 21. Si tu fais un vœu à l'Éternel, ton Dieu, tu ne tarderas point à l'accomplir. Car l'Éternel, ton Dieu, t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un grand péché, d'un péché, pardon. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché. Mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel, ton Dieu, et que ta bouche aura prononcé. On voit encore un élément sur un vœu. Le vœu, c'est un engagement volontaire. C'est volontairement qu'on décide. Dieu ne te pousse pas. Tu décides volontairement de faire quelque chose pour le Seigneur. C'est ça un vœu. Et en réfléchissant, j'ai catégorisé ça en deux parties. Il y a le premier engagement, c'est un engagement personnel. Et ça, nous allons lire dans le livre de Nombres, au chapitre 6. Nombre au chapitre 6. À partir du verset 1er. Nombre 6, verset 1er au verset 5. Donc c'est le Seigneur qui parle à Moïse. L'Éternel parla à Moïse et dit : Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras. Lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de viande, de vin, de boisson enivrante, il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre avec une boisson enivrante, il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais ni de raisins secs. Pendant tout le temps de son Naziréa, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Pendant tout le temps de son Naziréa, le rasoir ne passera point sur sa tête, jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint. Il laissera croître librement ses cheveux. Voilà ce que le Seigneur dit. Et lorsque nous connaissons un petit peu l'histoire ou le contexte, lorsque Dieu donne ses ordonnances pour celui qui se met à part en faisant ce vœu de Naziréa, comme nous avons dit, le vœu, c'est un engagement volontaire. Et ma première catégorie, c'est l'engagement personnel. Ici, ce sont des personnes qui décident de se mettre à part pour le Seigneur. Et là, le Seigneur donne des ordonnances. Il dit, cette personne-là ne mangera pas de produit qui vient de la vigne, il s'abstiendra de manger certaines nourritures et il gardera ses cheveux non coupés. Ses cheveux vont pousser et sans qu'il les coupe. Et lorsque nous connaissons le contexte, c'était pour un homme. Déjà, apparemment, on voyait que cet homme était consacré à l'Éternel. Mais pour l'homme lui-même, c'était un choix conscient qu'il a fait de suivre le Seigneur. Et par conséquent, il a accepté les ordonnances de Dieu, même si c'était parfois humiliant, c'était honteux pour un homme à cette époque d'avoir les cheveux comme ça. C'était une certaine honte, mais celui qui s'engageait, il était conscient que c'est pour Dieu qu'il s'engage. Et finalement, il accepte même les conséquences de son choix, les conséquences de son vœu qu'il a fait. Et comme nous avons dit, le vœu, c'est un engagement personnel. Maintenant, il y a une deuxième catégorie que j'ai mis, c'est l'engagement vis-à-vis d'une autre personne. Et c'est ça qui va nous intéresser lorsqu'on parle de vœux vis-à-vis d'autres personnes. Nous, dans notre cas, on parle de Dieu. Mais il est arrivé parfois qu'on ait besoin de quelque chose. On dit à quelqu'un, prête-moi un peu d'argent. Bon, on sait que quand on dit, si on dit à une personne, donne-moi de l'argent, parfois ça peut être dur pour que la personne puisse réagir. Alors, certains vont user de stratagèmes en disant, prête-moi, je te rendrai. Et ça peut motiver la personne qui est en face pour faire un geste. Et parfois, cet esprit-là, on veut le ramener aussi au Seigneur en disant, Seigneur, donne-moi ceci et je ferai cela pour toi. Seigneur, donne-moi ceci. Et comme on a dit, l'engagement est volontaire. Dieu ne pousse personne. Nous allons voir des exemples dans la Bible. Toutes ces personnes qui ont fait des vœux à Dieu, Dieu n'est jamais venu pour dire on fait un contrat. Non. Ce sont ces personnes elles-mêmes, poussées par l'Esprit, qui ont fait ce vœu à Dieu en disant Seigneur, donne-moi ceci. Voilà ce que je ferai pour toi en retour. Et le thème de notre exhortation, c'est honore ton vœu envers l'Éternel. Honore ton engagement. Honore ton contrat envers Dieu. Je me rappelle d'une histoire qu'on nous a racontée ici. C'est un homme qui a souffert d'une maladie chronique et il ne pouvait pas guérir de cette maladie-là. Et il est allé chez les médecins, il est allé voir un pasteur, puisqu'il n'avait plus de solution. Et en allant chez cet homme de Dieu, l'homme de Dieu lui dit, mais le Seigneur me met à cœur que tu as une dette envers Dieu. Il se dit, ah bon, moi je ne crois même pas en Dieu. Comment ça tu peux me dire que moi j'ai une dette envers Dieu? Il dit, oui, le Seigneur me dit que tu as une dette envers lui. Et lorsque la personne retourne chez elle, elle médite, elle réfléchit, elle se rappelle qu'une fois, elle se noyait et elle a crié à Dieu, comme beaucoup de païens parfois, lorsqu'ils sont au bout du rouleau, ils se disent, je n'ai plus rien à perdre. Cette personne-là a crié à Dieu et elle a été délivrée de cette noyade. Mais finalement, la vie a repris et voilà, la personne a oublié. Et comme nous l'avons dit dans Deutéronome 23, Dieu dit que lorsqu'on fait un vœu, on se lie par un engagement. C'est un contrat. Et ce contrat-là, on le fait comment? On peut le faire par la prière. On peut le faire en parlant tout simplement à Dieu. Mais Dieu, lui, considère que c'est un contrat. Il considère que c'est une alliance qu'on a fait avec lui. Et Dieu nous le rappellera. Et cet homme, lorsqu'il est rentré, il s'est dit, mais il s'est rappelé, il s'est dit, oui, finalement, j'avais crié à Dieu. J'ai fait cette promesse-là à Dieu, mais il a été sauvé. Et il a oublié, comme beaucoup. Parmi nous, parfois, on dit des paroles à Dieu, on fait des promesses au Seigneur en disant, Seigneur, si tu me fais ceci, tu me délivres, si j'ai mon diplôme, Seigneur, voilà comment je veux m'engager pour toi. Mais l'être humain oublie lorsque la bénédiction est là parce que Dieu, lui, pour sa part, il est fidèle. Il va faire sa part. Et tous les exemples que nous allons voir que Dieu est fidèle. Mais la question, c'est, est-ce que nous avons honoré notre parole vis-à-vis du Seigneur? Est-ce que nous avons honoré le vœu que nous avons fait à Dieu? Je pense que tous, autant que nous sommes ici, parce que moi, lorsque j'ai médité ça, je me suis dit, mais finalement, c'est vrai. Ça nous arrive parfois de faire une prière à Dieu, de demander quelque chose au Seigneur, de s'attendre à Dieu, parfois de dire quelque chose à la prière, mais on oublie. On oublie. Nous lisons le premier exemple, Juges au chapitre 11. Juges 11. À partir du verset 29. Donc le contexte, c'est Jephté. Jephté, qui était un homme qui avait été appelé par Dieu pour libérer son peuple et qui avait formé une milice pour cet effet. Et il a affaire à un roi des Ammonites, des fils d'Ammon. Et ce roi menace le peuple d'Israël en disant, lorsque vous êtes sortis d'Égypte, vous êtes venus dans nos terres et vous avez pris nos terres, vous avez chassé nos frères et nous allons faire la guerre contre vous. Et Jephté envoie une lettre en disant, mais il envoie ses messagers pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu cherches querelle? Et là, on arrive au verset 29. L'Esprit de l'Éternel fut sur Jephté. Il traversa Galad et Manassé. Il passa à Mitzpé de Galad. Et de Mitzpé de Galad, il marcha contre les fils d'Ammon. Jephté fit un vœu à l'Éternel et dit, si tu livres entre mes mains les fils d'Ammon, quiconque sortira des portes de ma maison, au-devant de moi, à mon heureux retour, chez les fils d'Ammon, sera consacré à l'Éternel, et je l'offrirai en holocauste. Jephté marcha contre les fils d'Ammon, et l'Éternel les livra entre ses mains. éprouvé une très grande défaite depuis Aroer jusque vers Minit, espace qui renfermait 20 villes jusqu'à Abel-Keramim. Et les fils d'Amon furent humiliés devant les enfants d'Israël. Jephté retourna dans sa maison à Mitzpah. Et voici, sa fille sortit au devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils et point d'autre fille. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit « Ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement. Tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel. Je ne puis le révoquer. » Elle lui dit « Mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. » Elle dit à son père, « Que ceci me soit accordé, laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je pleurerai ma virginité avec mes compagnes. » Il répondit, « Va !» Et il la laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle pleura sa virginité sur les montagnes. Au bout de 2 mois, elle revint vers son père et il accomplit sur elle le vœu qu'il avait fait. Elle n'avait point connu d'homme. Dès lors, s'établit en Israël la coutume que tous les ans les filles d'Israël s'en vont célébrer la fille de Jephté, le Galaadite, 4 jours par année. Voilà le vœu que Jephté, serviteur de Dieu, fait à l'Éternel. Il dit, Seigneur, si tu nous donnes la victoire contre le peuple des Ammonites, le vœu que je fais, c'est que lorsque je rentrerai chez moi, la première personne qui sortira de ma maison, eh ben je te la consacrerai en holocauste. Et nous savons que les holocaustes, c'était les sacrifices qui étaient consumés, qui appartenaient totalement à Dieu. Et c'était une prise de risque, ce que Jephté fait. Et voilà qu'il rentre chez lui, c'est sa fille qui sort. Lorsque j'ai toujours lu ce passage, j'ai toujours eu mal. En plus, on donne des détails, on dit, c'était son unique fille. Son seul enfant et son unique fille. Le seul enfant. Et Jephté voit la fille qui sort et il dit, ma fille, tu me mets dans des tourments. Il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne peux pas reculer. Je ne peux pas reculer. Le vœu qu'on fait à Dieu, la promesse qu'on fait à Dieu est irrévocable. Et Jephté a compris cela. Il a compris qui était Dieu. Mettons-nous dans le contexte parce que le fait que Jephté aille jusqu'au bout de sa parole, du vœu qu'il a fait à Dieu, donc il s'engageait non seulement à perdre sa fille, mais à ne plus avoir de descendance. Il s'engageait à tout perdre. Et il voit sa fille, il dit, j'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis reculer. Mais on voit aussi que la fille connaissait Dieu. Parce que qu'est-ce qu'elle répond à son père? C'est étonnant. Elle dit, mon père, si tu as fait un vœu à Dieu, puisqu'il t'a délivré des Ammonites, fais ce que tu as dit à Dieu. Mais elle dit, seulement je te demande une chose, permets que j'aille fêter pendant 2 mois et lorsque je reviendrai, tu accompliras ton vœu. Ce texte est là pour nous montrer que lorsque on considère qui est Dieu, eh ben on ne sort pas des paroles en vain. Jephté a sorti une parole, il aurait pu se dérober. Il aurait pu, comme beaucoup, faire la sourde oreille, oublier, faire semblant. Mais Jephté est allé jusqu'au bout du vœu qu'il avait fait à Dieu. Un vœu très difficile pour nous. Très difficile, mais Jephté est allé jusqu'au bout. Et nous allons le lire. Il est écrit dans Ecclésiaste 5, il est écrit dans Proverbe 20, 25, que c'est un engagement pour un homme, c'est un piège, pardon, pour un homme de prendre un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait le vœu. Et malheureusement, il nous arrive très souvent de faire des promesses à Dieu. Il nous arrive très souvent de dire, Seigneur, tu fais si, regarde ce que je ferai. On a lu, la Bible dit qu'il a battu les Ammonites à plate couture. Mais voilà qu'il rentre chez lui, c'est sa fille qui sort, il se dit, ah. Et ce qui me touche, c'est qu'il dit à sa fille, j'ai fait le vœu à l'Éternel, je ne peux plus reculer. Alors, mon exhortation, c'est de nous rappeler à notre conscience, de nous rappeler à notre mémoire les vœux que nous avons faits à Dieu. Je pense que tant que nous sommes ici, nous avons fait un jour une promesse à Dieu. Parfois, nous n'étions même pas chrétiens, comme cet homme dont j'ai donné le témoignage. Qui va voir le serviteur lui dit, tu as une dette envers Dieu. Il dit, mais non, moi jamais. Mais il s'est rappelé que lorsqu'il était mourant, il se noyait, il a crié, Dieu aide-moi. Dieu l'a aidé, mais Dieu est patient. Peut-être que 20 ans, 30 ans peut-être se sont écoulés, il a complètement oublié. Parce que quand le serviteur de Dieu lui dit, mais tu as une dette envers Dieu, il dit, mais moi jamais de la vie. Moi Dieu, moi je ne le connais même pas, je ne crois même pas en Dieu. Mais finalement, lorsqu'il est rentré en lui-même, il s'est rappelé qu'il avait promis quelque chose à Dieu. Moi le premier, honorant le vœu que nous avons fait à Dieu. Et là, Jephté n'a pas reculé. Il n'a pas reculé devant le vœu qu'il avait fait. Il est allé jusqu'au bout. Il est allé jusqu'au bout. Il aurait pu prier, crier à Dieu, dire, bon Seigneur, tu m'aimes, tu sais que moi aussi je t'aime. Seigneur, mais voilà, c'est ma seule fille. Non, il est allé jusqu'au bout. Et la fille aussi, on voit qu'elle connaissait Dieu parce qu'elle a compris qu'il ne fallait pas négocier. Elle a dit, mon père, ce que tu as décidé, fais-le. Laisse-moi profiter de moi et quand je reviendrai, tu m'offriras comme tu as dit à l'Éternel. C'est cela. Ecclésiaste 5, 3 à 4. Ecclésiaste 5, 3 à 4. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, lorsque tu as fait un vœu à l'Éternel, hâte-toi de l'accomplir. Sinon, mieux vaut pour toi ne pas faire de vœux. Comme on a dit tout à l'heure, on a dit, le vœu, c'est un engagement volontaire. C'est de soi-même qu'on décide, on dit, Seigneur, je prends la résolution de soit te donner tant. Seigneur, je prends la résolution soit de faire ceci pour toi. Seigneur, je prends la résolution de m'engager dans ceci, dans cela, pour toi. C'est volontaire. Et la Bible dit ici que hâte-toi d'accomplir le vœu que tu as dit à l'Éternel. Sinon, vaut mieux ne rien dire. Sinon, vaut mieux ne rien dire. Et comme nous l'avons dit, Proverbe 20-25 dit que c'est un piège pour un homme de prendre à la légère un engagement sacré. Pourquoi un piège? Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, en tant qu'humain, on peut se promettre des choses en retour d'une faveur. On dit, comme ça se passe souvent, on se recommande. Tiens, tu m'aides pour telle chose, moi aussi je m'engage à te rendre l'appareil. Mais parfois on voit que le cœur de l'homme oublie vite. L'homme cherche ses intérêts, l'homme cherche toujours à supplanter l'autre. Et la Bible dit, c'est un piège pour l'homme. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'homme qui pense faire ainsi avec Dieu, il se trompe. Parce que l'homme, on peut le tromper. L'homme, il peut oublier, on peut lui promettre quelque chose, il peut oublier. Et on s'en sort. Mais Dieu, c'est pas possible. Voilà pourquoi il dit, c'est un piège. Pourquoi c'est un piège? Parce que faire un vœu, dire une parole, une promesse, c'est facile. Hein? C'est très facile. Il suffit qu'on soit dans le besoin, on fait des promesses, parce qu'on est tellement dans le besoin, on veut tellement quelque chose, on peut faire toutes sortes de promesses. On peut sortir toutes paroles. On voit aujourd'hui, nous sommes en plein dedans les campagnes électoral, là sur les primaires, mais on voit chaque candidat qui fait toutes sortes de promesses. C'est trop facile, c'est trop facile. On surenchérit, qu'est-ce que l'autre a dit? Ah ben moi je ferai plus. Qu'est-ce que l'autre a dit? Eh ben moi je ferai ce. C'est trop facile. Mais on voit la réalité avec Hollande. Il avait combien? Je crois 80 propositions qu'il avait fait dans un dépliant. Mais aujourd'hui, où est-ce qu'il en est? Parce que la réalité est tout autre, mais parce qu'il a menti aussi. C'est ça. Voilà pourquoi la Bible dit que c'est un piège, parce que c'est tellement facile de bien parler à Dieu, dire Seigneur, si tu me donnes mon diplôme, Seigneur, si je fais, Seigneur, je ferai ceci. C'est trop facile. Je parlais avec une personne qui, lorsqu'elle est arrivée en France, et j'en vois beaucoup là où je travaille, des jeunes qui arrivent, et pour la plupart, pour arriver en France, ils ont jeûné. Hein. Pour la plupart, pour arriver en France, ils étaient dans les églises, ils étaient engagés, ils étaient, et à ce moment-là, ils jeûnent pour avoir le visa. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. Il y en a qui nous racontent qu'ils viennent par bateau. Parfois, ils sont sans, il y en a 80 qui meurent, qui sont jetés comme ça dans les pirogues, dans l'eau. Et ils arrivent en France. Il y a encore l'engouement, il y a encore la soif de Dieu. Parfois quand je travaille, on parle du Seigneur. Et il y a un qui me dit, mais j'ai souffert pour arriver en Europe. Il me raconte comment il est passé par le Maroc. Il me raconte, pour ceux qui connaissent un petit peu, Melilla, ce sont des grandes barrières du Maroc. Lorsqu'on traverse, on se retrouve à Melilla et c'est une terre qui est en Afrique, mais qui appartient au Maroc. Et ils ont fait 5 grandes clôtures, mais c'est des clôtures qui mesurent peut-être 10 mètres, 20 mètres, avec des barbelés. Et il me montre les cicatrices. Il me dit qu'il montait ces barrières. Et il y en a 5, hein. Donc ils montent la première, ils descendent. Et comme ils sont malins, donc quand ça descend, ils ont creusé comme une sorte de vallée. Pour que celui qui monte se retrouve par terre, il doit remonter d'abord. Le sol, et une fois arrivé, il doit grimper pour remonter. Et il y en a 5. Il y en a qui meurent. Il a réussi à arriver jusqu'à la 4e. Ils se sont fait attraper. Et il est revenu et il me raconte tout ce qu'il a vécu. Et il me dit, j'ai fait un vœu à Dieu. J'ai dit, Seigneur, si j'arrive en Europe, je veux te servir. Mais aujourd'hui, où on se parle, il est dans Évreux, il a teint les cheveux en blond. Il a des boucles d'oreilles partout, voilà. Et donc, il a obtenu son objectif. C'était d'arriver en Europe, malheureusement. Malheureusement, mais combien? Et parfois, on se dit, mais comment? Mais nous aussi, il nous arrive, dans la vie de tous les jours, par rapport à des situations, de faire de vœux à Dieu, on dit, Seigneur, fais ceci pour moi. Fais cela pour moi. Voilà ce que je te rendrai. Et cette personne qui est au pays, il servait Dieu. Voilà qu'il arrive, finalement, voilà, c'est comme si ses yeux se sont ouverts, quoi. Le diable a bien ouvert ses yeux. Il se retrouve en Europe, il n'avait pas de papier, il n'avait pas, aujourd'hui il a ses papiers, il fait son contrat d'apprentissage, il a une situation, et aujourd'hui Dieu, c'est une histoire ancienne. Et c'est ça qui m'a inspiré, je me suis dit, effectivement, c'est lui-même qui m'a dit, moi j'ai fait des promesses à Dieu, mais là quand il parlait, il était dans la galère. Il était dans la souffrance, il venait de très loin. Mais nous tous, nous sommes dans ce cas-là. Peut-être que nous n'avons pas traversé les barrières de Melilla, mais nous sommes tous dans ce cas-là. Mais la Bible dit, dans Genèse 31:13, que Dieu demandera des comptes pour le vœu que cet homme avait fait. Dieu lui demandera des comptes. Comme l'exemple que j'ai donné, cet homme qui est tombé malade, le pasteur lui dit, tu as une dette envers Dieu. Eh bien, un jour, Dieu demandera des comptes. Voilà pourquoi certains vont sembler avancer. Dieu te bénit. Dieu est fidèle. Il manifeste sa grâce. Et bien toi, tu penses que, ah oui, je me suis bien en sorti. Alors que c'est tout simplement la grâce de Dieu. Il te fait un sourire, il te fait un clin d'œil en te disant, regarde de quoi je suis capable. Si les papiers étaient un problème pour toi, regarde. Et voilà ce jeune qui aujourd'hui, maintenant il est là, il court, les filles, il vit, parce qu'il est arrivé en Europe. C'est cela. Malheureusement. Mais la Bible dit, Dieu demandera des comptes pour celui qui a fait un vœu. Il dit, vaut mieux pour toi te taire, ne rien dire. Mais quand tu fais un vœu, c'est-à-dire que tu engages Dieu en quelque sorte à agir. Mais Dieu peut agir sans qu'on fasse de vœux. Tous les jours ici, est-ce qu'on fait des promesses à Dieu en disant, Seigneur, donne-moi si je ferai ce ça. Jamais, non. Mais Dieu le fait par amour, par bonté, tout simplement. Mais quand on fait un vœu, Dieu veut qu'on l'honore. Nous lisons Genèse, l'exemple de Jacob. Genèse au chapitre 28. Genèse chapitre 28, on peut commencer. Donc là, Jacob est en fuite. Il est poursuivi par son frère Ésaü et nous arrivons, on peut lire directement à partir du verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des brebis pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Voilà ce que Jacob dit à Dieu. Il est poursuivi par son frère et Jacob a peur. Et là où il se retrouve, il ne sait même pas ce qui peut lui arriver. Et il fait cette prière à Dieu. Il dit, « Éternel, si tu me donnes du pain à manger, si tu me gardes pendant ce voyage, et si tu me donnes des habits pour me vêtir, et je retourne chez moi, dans la maison de mon père, alors tu seras mon Dieu. » Voilà la prière que Jacob fait à Dieu. Comme on a dit, le vœu, on le fait par la prière. On le fait parfois par une pensée. Au fond de nous, on est tellement dans la détresse, on dit, « Seigneur, si tu fais ceci pour moi, voilà ce que je ferai en retour pour toi. » Et c'est ce que Jacob fait comme prière à Dieu. Et nous lisons maintenant Genèse 31. Genèse 31. Verset 13. « Je suis le Dieu de Bethel, où tu as oint un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. » Voilà que Dieu se révèle plus tard à Jacob pour lui dire, parce que Jacob se retrouve au pays étranger, et Dieu lui dit, « Je suis le Dieu de Bethel, je suis ton Dieu à toi, le Dieu de tes pères, et j'ai accompli ce que je t'avais promis. Maintenant, retourne et va dans la maison de tes pères. Accomplis le vœu que tu m'as fait. » C'est cela. Et le vœu que Jacob fait, c'est le vœu que beaucoup d'entre nous disons à Dieu. On dit, « Seigneur, si tu me gardes pendant mon voyage, Seigneur, mes épreuves, j'ai des examens. Seigneur, si tu agis, alors là, je veux glorifier ton nom. Seigneur, si, il y a beaucoup de si. Beaucoup. » Et lorsque nous voyons la vie de Jacob, on voit que Jacob a honoré le vœu qu'il avait fait à Dieu. Il a honoré cela juste avant. Il a lutté avec Dieu. Il a combattu un ange. Et c'est ensuite qu'il fait cette promesse. Il a tellement souffert. Et il fait cette promesse à Dieu. Il dit, « Délivre-moi. Il y a mon frère qui me suit. Je me retrouve chez des étrangers. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver. Alors Seigneur, si tu daignes me délivrer, si tu me délivres, si tu me gardes vivant, alors voilà ce que je ferai. » Et bien, qu'est-ce que je ferai? Et bien, sur cette pierre, je vais dresser la maison de Dieu et je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. En quelque sorte, je vais contribuer à ton œuvre. Alors mon thème, ce n'est pas de parler de la dîme, de donner l'argent, non. C'est tout simplement parce que c'était une marque d'adoration pour eux, à ce moment-là, de donner une dîme. Le dixième, c'était une adoration, montrer que Dieu était à la première place. Dieu est à la première place. Alors la question que je nous pose, où en sommes-nous avec le vœu que nous avons fait à l'Éternel? Où en sommes-nous? Lorsque le Seigneur nous dit, « Mon fils, voilà, j'ai besoin de toi. Rappelle-toi de ce que tu as dit. » Autrefois, on dit, « Ah Seigneur, on trouve toujours des excuses. on trouve toujours des excuses en disant, oui, mais Seigneur, j'ai si. Et je n'invente pas, nous lisons Luc au chapitre 9. Luc au chapitre 9. Luc chapitre 9, verset 57. Luc 9, 57. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. C'est merveilleux, c'est formidable. C'est formidable. Parce que lorsque nous lisons, mais mettons-nous dans le contexte, la vie de Jésus, avec les pharisiens, avec les scribes, avec les ceux qui ne croyaient pas, avec tout ça, toutes les souffrances, où on le traitait de Belzéboul, de démon, on le calomniait, on faisait des complots après lui, contre lui. Et cet homme dit au Seigneur, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. On a dit le vœu, c'est une promesse qu'on fait à quelqu'un. Et nous lisons, Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il dit à un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. Mais Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Un autre dit, je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre au royaume des cieux. C'est-à-dire quiconque décide de suivre le Seigneur et qui finalement trouve des raisons pour ne pas le faire parce que là c'est immédiat lorsque le Seigneur dit, suis-moi, c'est maintenant, c'est à l'instant. L'autre dit, Seigneur, je te suivrai partout. Partout, tout ce que tu feras, moi, je serai dedans. Peut-être qu'il a vu Jésus faire des choses extraordinaires. Il a vu la main de Dieu peut-être dans sa vie, on ne sait pas. Mais je pense que oui, parce que Jésus partout il passait, il faisait du bien. Et cette phrase est sortie de sa bouche, Seigneur, je te suivrai partout. Mais Jésus lui-même calme, il dit attention. Il dit les tanières ont, même les renards, ils ont des tanières où ils peuvent se cacher, mais moi le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où dormir. Et c'est là qu'il dit à un autre, suis-moi. Il dit, Seigneur, regarde, je dois m'occuper de mon père. Je dois m'occuper des obsèques. Le Seigneur n'est pas contre qu'on s'occupe des obsèques. Mais il veut tout simplement dire que là, maintenant, il y a des gens qui sont en train de mourir aussi parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Ton père est mort, c'est déjà fait. Alors laisse les gens qui peuvent s'occuper de ça, laisse les gens qui sont professionnels, qui aiment des cérémonies spéciales, laisse-les faire ces cérémonies-là. Toi, Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Qui est le médecin qui, lorsqu'on l'appelle, il est de garde, on l'appelle, il dit, non, mais j'ai mon fils qui est malade, il faut... Non. Le médecin, son rôle, c'est de sauver des vies. Quand on l'appelle, il est disponible, parce que c'est ça son travail. Même s'il a ses propres problèmes, on connaît des médecins parfois qui ont des enfants malades. On connaît. Parfois, ils connaissent des situations personnelles très difficiles. Mais parfois, ils ne laissent même pas transparaître ça. On ne voit même pas ce que lui, quand il est au boulot, c'est pour aider les gens, c'est pour sauver les gens. Et Jésus dit à cet homme, mais toi, tu es comme un médecin. Marcher avec moi, c'est pour sauver les personnes qui sont encore vivantes. Ton père est déjà mort. On se rappelle de l'autre épisode où il parle à quelqu'un et dit, oui, mais j'ai acheté une paire de bœufs, je vais essayer. L'autre, j'ai un terrain, je vais... On cherche toutes sortes d'excuses. Pourtant, ce sont les mêmes là qui ont dit, Seigneur, nous allons te suivre. Ce sont les mêmes qui ont vu la main de Dieu, qui ont fait de belles promesses à Dieu. Et l'apôtre Paul dit à Timothée quelque chose, il dit, saisis la vie éternelle pour laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait confession devant beaucoup de témoins. Il dit, saisis la vie, cette vie éternelle pour laquelle tu as confessé devant tout le monde. C'est-à-dire, moi, j'ai décidé de suivre Jésus. Paul dit à Timothée, il rappelle Timothée, il dit, évite les vains discours, les vaines discussions. Toi, continue. Ton objectif, c'est le Seigneur. Tu as confessé devant Dieu, tu as confessé aussi devant les gens qui sont témoins. Alors, continue. C'est ça. Le vœu que tu as fait, ben, va jusqu'au bout. Et ce texte nous montre que lorsqu'on dit des belles paroles, comme cet homme, « Oh Seigneur, je te suivrai partout », Dieu mettra des situations pour qu'on puisse faire le choix. « Oh Seigneur, tu es merveilleux !» Ah, Dieu va mettre des situations. Parce que toutes ces paroles-là, c'est comme des vœux qu'on fait à Dieu. Il dit « Ah bon ? Je suis cela ?» Eh ben, ok, on va voir maintenant. J'ai besoin de toi. Et c'est là qu'on dit « Oh, oh !» Comme ce jeune, j'ai témoigné tout à l'heure, il y a des jeunes qui sont au foyer qui me disent « Ah tiens, on a vu Patrick, on a vu... » J'envoie des messages. Il dit « Ah oui, dites à Jean-Luc, je sais, je reviendrai, je sais. » Mais tu reviendras ou moi, je ne suis pas Dieu. Peut-être qu'il reviendra au foyer pour me voir, mais ce n'est pas ça le problème. Mais il sait. Dieu va toujours le rappeler. Il va dire « Regarde ce que tu avais dit autrefois, regarde. As-tu oublié ?» Le Seigneur veut que nous puissions honorer le vœu que nous avons fait, les paroles que nous avons sorties. Et à partir d'aujourd'hui, considérons aussi nos paroles. Je ne suis pas en train de dire qu'on va maintenant devenir comme des personnes qui scrutent tout ce que... Non, le Saint-Esprit nous conduit. Comment prier, comment parler à Dieu? Mais le Saint-Esprit nous convainc aussi pour les choses que nous avons promis à Dieu que nous n'avons pas réalisées. Moi, le premier... Il y a des promesses. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais étudiant, j'ai fait des promesses à Dieu. J'ai dit, Seigneur, aide-moi par rapport à ces examens. Je veux me consacrer à toi. Et le Seigneur attend. Le Seigneur attend. Et beaucoup d'entre nous, c'est la même chose. Nous avons fait des promesses à Dieu. Seigneur, si tu me donnes un mari... Seigneur, si j'ai cette maison-là, vraiment celle-là, là, à 3 chambres, 4 chambres, celle-là, Seigneur, je veux passer à une autre étape. Mais le Seigneur, ce n'est pas un problème pour lui. Mais là où le bas blesse, c'est quand le Seigneur va dire maintenant, bon, où est la promesse que tu m'as faite? Ce que tu m'avais dit autrefois, là. On dit qui? Moi? Ah non. Moi, jamais. Jamais j'ai dit ça. C'est là que le Seigneur nous attend. Honorons le vœu que nous avons fait à Dieu, la promesse que nous avons faite, l'engagement, la résolution que nous avons prise, le Seigneur nous attend. Le Seigneur nous attend. Si nous sommes dans la négligence, retard par-ci, retard par-là, il y en a qui ont dit « Seigneur, donne-moi un enfant ». Aujourd'hui, l'enfant est devenu une occasion de chute. Seigneur, donne-moi un travail, le travail est devenu une occasion de chute. Parfois, on ne travaille même pas, mais on est toujours en retard. Dans les réunions, on est toujours en retard. Et quand c'est comme ça, vaut mieux me s'humilier et dire, oui, c'est vrai, j'ai un problème, priez pour moi. Mais on cherche toujours, non, bon. On cherche toujours des excuses. Et là, Jésus, parce que les exemples que nous avons là, de ces gens qui parlent à Jésus, c'est quand même extrême. Un décès, mais qui ne peut pas comprendre? Qu'on puisse prendre du temps pour un décès, c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Mais si cet exemple est là, c'est pour nous montrer que devant Dieu, il n'y a aucune excuse qui soit valable. Il n'y a pas d'excuse. Et le Seigneur a mis ces gens devant leurs responsabilités. Vous avez fait des promesses. Maintenant, comme il est écrit dans Ecclésiaste 5, ne tardons pas à accomplir le vœu que nous avons fait à Dieu. La promesse que nous avons faite à Dieu. Ne tardons pas. Le Seigneur nous le rappelle. Il dit, ne parlons pas comme des insensés. L'insensé, c'est celui qui multiplie des paroles, il ne sait même pas ce qu'il dit. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas. Dans le monde, ils disent, tournez la langue, je crois, 7 fois avant de parler. Et il y a parfois des gens, ils parlent. Tout simplement parce qu'il y a peut-être la convoitise, il y a quelque chose qu'il attend de Dieu. Et Dieu, dans sa fidélité, dans sa souveraineté, il fait, mais il attend maintenant le retour. Et comme nous l'avons dit, Dieu demandera des comptes à tous ceux qui font un vœu. Il demandera des comptes. Nous lisons l'exemple d'une autre personne encore qui a fait un vœu à l'Éternel, 1 Samuel, une histoire que nous connaissons. C'est l'histoire de Anne. Donc Anne est une femme qui n'avait pas d'enfant et cette situation était difficile pour elle. Et on peut comprendre un petit peu dans le contexte du Moyen-Orient ou même encore de l'Afrique, où pour une femme ne pas avoir d'enfant, c'est dégradant, c'est humiliant. C'est très humiliant. En quelque sorte, le fait qu'elle soit mère, c'est ça qui valorise cette femme dans la famille. C'est pas comme ici où quelqu'un peut décider, une femme peut décider, bon, je privilégie ma carrière professionnelle au détriment de fonder une famille. C'est pas la même chose. Et Anne souffrait de cette situation. À tel point que son mari même l'interpelle en disant, mais regarde l'amour que j'ai pour toi. C'est même plus que le fait d'avoir 10 fils. Mais pour Anne, c'était tellement dur cette situation. Et il est écrit que sa rivale, Pénina, l'a mortifiée, se moquait d'elle. Et elle souffrait de cette situation. Et Anne se rend au temple. Il est écrit, on peut en commencer à lire verset 6. Verset 6. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils ?» Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Verset 11, elle fit un vœu en disant, « Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. Et le rasoir ne passera point sur sa tête. » Amen. Voilà la prière que Anne fait à l'Éternel. Et nous continuons la lecture. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Nous voyons que parfois, la souffrance, parfois, l'état de souffrance dans lequel on est peut nous amener à dire des paroles. On est tellement dans la souffrance, on a le seul recours que Dieu, et à ce moment-là, toutes les paroles sont bonnes parce que, voilà, on n'a plus rien à perdre en quelque sorte. Il n'y a plus que Dieu. Et là, on sort toutes sortes de paroles. Et là, Anne dit, c'est le chagrin qui m'a fait parler. Combien de personnes, à cause du chagrin, n'ont pas dit de paroles parfois qu'ils ont regrettées plus tard? À cause de la colère, combien de personnes n'ont pas dit des choses? Ils se sont tenus la tête en disant, moi, j'ai dit ça. Combien n'ont pas fait des choses, posé des actes qu'ils ont regrettés toute leur vie? Il y en a beaucoup en prison. Il est allé juste pour régler un compte, et ben, mauvais coup, la personne tombe, la personne décède, voilà, prison, la vie foutue. Combien? Et là, Anne dit, le chagrin, l'excès de chagrin m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit, que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne sa femme et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Son mari Elkana monta ensuite avec toute sa maison pour offrir à l'Éternel le sacrifice annuel et pour accomplir son vœu. Mais Anne ne monta point. Et elle dit à son mari, « Lorsque l'enfant sera sevré, je le mènerai afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. » Elkana, son mari, lui dit, « Fais ce qui te semblera bon. Attends de l'avoir sevré. Veuille seulement l'Éternel accomplir sa parole. » Et la femme resta et elle était à son fils jusqu'à ce qu'elle le sevra. Quand elle l'eut sevré, elle monta, elle le fit monter avec elle et prit 3 taureaux, un épha de farine et une outre de vin. Elle le mena dans la maison de l'Éternel à Silo, l'enfant étant encore tout jeune. Et verset 26, Anne dit, « Mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur, je suis cette femme qui me tenait ici, près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais, et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi, je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. » Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. Amen. Voilà cette histoire de Anne qui fait le vœu à l'Éternel en disant, « Seigneur, si tu me donnes un fils, je veux te le consacrer. » Elle ajoute toute sa vie. Nous avons lu dans Nombre 6, lorsqu'on a parlé de le vœu comme un engagement personnel, on a lu dans Nombre 6, le Nazaréat, c'était pour une période donnée qu'une personne se mettait à part. Pour l'Éternel, sa vie était totalement consacrée à Dieu, de telle sorte que même quand les gens voyaient cette personne vivre, que ce soit physiquement, parce qu'il avait les cheveux longs, que ce soit par sa vie, sa manière de vivre, l'abstinence par rapport à tout ce que Dieu avait prescrit, et bien les gens pouvaient voir que cet homme était consacré à Dieu. Mais là, c'était pour un temps bien défini. Et là, Anne décide de donner son enfant à l'Éternel. Elle va jusqu'au bout de la promesse qu'elle a faite au Seigneur. Et ma question ce soir, c'est qu'en est-il pour nous? Qu'en est-il pour moi? Honorons le vœu que nous avons fait à Dieu. Lorsqu'on honore le vœu que nous avons fait à Dieu, Dieu est glorifié. Et il nous bénit encore davantage. Anne espérait tout simplement un fils. Peut-être pour la soulager de son chagrin. Peut-être pour assurer la descendance. Qu'on se souvienne qu'un jour, Samuel était le fils d'Anne. Une certaine Anne. Peut-être c'était ça les raisons. Mais Dieu, lui, il avait d'autres raisons. Lui, c'était de faire de Samuel, son fils, un juge pour Israël, pour la maison d'Israël. Et quel juge? C'était cela. Même si c'était difficile pour elle, parce que finalement, dans tous les cas, l'enfant, elle n'a même pas eu pour elle. Elle n'a pas eu pour elle. Elle a eu pour Dieu. Donc, elle a en quelque sorte perdu. Elle a en quelque sorte perdu. Mais pour Dieu, elle a gagné parce que c'était un investissement. Cette prière qu'elle a faite, Dieu a entendu cette prière-là. Et lorsqu'elle parle à Élie, le sacrificateur, Élie lui dit que Dieu exauce ta prière. Parce que Élie a compris que Dieu allait agir. C'est cela. Alors je voudrais nous rappeler à nos souvenirs les vœux que nous avons faits à Dieu, les promesses que nous avons faites à Dieu. Lorsque parfois nous étions dans des situations difficiles, lorsqu'on était au plus bas de l'épreuve, on a fait des promesses à Dieu. On a dit, Seigneur, je ferai ceci. Seigneur, Seigneur. Et le Seigneur nous dit aujourd'hui qu'il attend toujours. Il attend toujours. Et il nous pose la question, où en sommes-nous? Le vœu que nous avons fait, la promesse que nous avons fait, l'engagement, la résolution que nous avons pris, où en sommes-nous? Est-ce qu'on se contente du minimum? On voit que Jacob, lorsque Dieu a exaucé sa prière, il a pris la pierre, il a bâti l'autel pour Dieu. Et il s'est consacré encore davantage à servir l'Éternel. Il s'est souvenu de ce que l'Éternel a fait pour lui. C'est cela. Il s'est souvenu. Et le Seigneur veut que nous puissions nous souvenir aussi des paroles que nous avons prononcées. C'est un piège pour l'homme de prendre à la légère un engagement sacré et de réfléchir simplement après avoir fait un vœu. Mais avec Dieu, ce n'est pas encore trop tard. S'il nous parle, c'est parce qu'il veut que nous puissions honorer le vœu. Comme on a dit, il y a parfois des blocages qui arrivent dans nos vies, puisque nous avons fait une promesse à Dieu que nous n'avons pas réalisée. Comme l'exemple de cet homme qui a eu une maladie. Donc il a fallu qu'il y ait cette maladie-là pour qu'il aille voir un pasteur. Le pasteur lui dise, tu as une dette envers Dieu. Alors le Seigneur nous parle aussi. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu nous montres, Seigneur, ta fidélité. Et tu veux aussi que nous puissions, Seigneur, être fidèles aussi, Seigneur. T'être fidèle. Seigneur, tu vois, Seigneur, toutes les paroles que nous t'avons adressées. Tu vois tous les vœux, toutes les promesses que nous t'avons fait, Seigneur. Peut-être que les autres autour de nous ne connaissent pas, mais nous, au fond de nous, nous le savons parce que nous avons vu ta main, Seigneur, nous délivrer. Puisque nous avons vu ta main agir, Seigneur. Seigneur, nous prions aujourd'hui pour que tu nous donnes la force, Seigneur, parce que en réalité, tu as tout accompli. Pour nous, Seigneur. Et si tu nous rappelles, Seigneur, cette parole, c'est parce que tu veux que nous puissions faire le choix, Seigneur, de t'honorer, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous rappelles aussi les vœux que nous avons faits. Seigneur, nous prions pour que tu nous rappelles les promesses que nous t'avons faites. Peut-être comme Anne, dans le chagrin, nous avons dit des paroles, Seigneur. Peut-être comme cet homme, Seigneur, qui est allé voir un pasteur, le pasteur qui lui a dit qu'il avait une dette envers Dieu. Peut-être comme ce jeune, Seigneur, dont nous avons entendu le témoignage, Seigneur, qui t'a fait des promesses, Seigneur, et tu as accompli ta parole, mais voilà qu'aujourd'hui, il a oublié toutes ces promesses qu'il avait faites, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous pardonnes, Seigneur, parce que, comme il est écrit, que lorsqu'on fait un vœu et qu'on ne l'accomplit pas, nous vivons dans le péché, Seigneur. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à accomplir le vœu, que tu nous montres aussi comment l'accomplir, Seigneur. Peut-être que nous t'avons dit, Seigneur, que nous voulons te servir. Seigneur, nous prions pour que tu nous diriges. Même si, Seigneur, nous avons des doutes ou nous ne savons pas comment faire, que nous puissions demander de l'aide, Seigneur, aux responsables, aux pasteurs qui sont là. Mais que nous puissions honorer nos paroles, Seigneur. Seigneur, nous avons vu l'exemple de Jephté, qu'il n'a pas reculé. Devant l'engagement qu'il a pris, Seigneur, devant toi, il n'a pas reculé. Même si c'était de sa propre fille, de sa propre descendance qui devait se séparer, Seigneur. Jephté est allé jusqu'au bout. Seigneur, donne-nous le cœur qu'il a eu, Seigneur. Donne-nous le cœur, Seigneur, de Jacob qui est resté fidèle au vœu qu'il t'a adressé, Seigneur. Jacob que nous appelons aujourd'hui Israël, Seigneur, qui a été fidèle. Donne-nous le cœur de Anne aussi, Seigneur. Qui a honoré, Seigneur, qui t'a honoré en accomplissant ce vœu, Seigneur. Et non pas seulement elle a été bénéficiaire, mais tout Israël a bénéficié de son obéissance. Seigneur, nous prions aussi pour que tu nous aides à nous engager pour toi, au nom de Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton esprit qui nous parle. Merci pour ton esprit qui nous convainc, Seigneur. Peut-être que nous nous cachions, Seigneur. Peut-être qu'au fond de nous, nous nous rappelons des paroles que nous t'avons dites, Seigneur, mais nous nous cachons. Nous voulons rester dans notre confort, peut-être par paresse, par peur. Seigneur, nous prions pour que tu nous délivres de cela. que nous puissions honorer le vœu que nous t'avons adressé dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole, merci pour ton esprit. À toi la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen.